se réveille là-dedans. C'est le carnet de correspondance sur CFM Radio. Bonjour tout le monde. C'est Jacques, l'émission qui s'intéresse à l'émission, qui sont liées à l'éducation. Et avec moi pour aborder tous ces beaux sujets, Jean-Marc Robin, qui est le principal du collège Valcéroux de Cordes-sur-Ciel et le professionnel du domaine et un passionné de toutes ces thématiques. Salut Jean-Marc.
Salut Jacques, merci pour ces compliments.
Ah, mais c'est vrai que tu passes seulement entre 7h et on va dire 18h. Même le reste du temps, tu lis des bouquins, des articles, tu écris aussi des bouquins. Ça, c'est assez curieux quand même, non, pour un enseignant. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça comme toi.
Oui, parmi les personnels de direction, on n'est pas très nombreux à écrire des articles ou à écrire des ouvrages. Mais c'est vrai que c'est une passion. Mmh. Donc, effectivement, j'adore écrire là-dessus. Il y a tellement de sujets pertinents.
Eh bien, c'est tant mieux pour nous, parce qu'avec toi, on peut discuter à bâton rompu de ces sujets. La dernière fois, tu nous as donné tes idées hein, pour améliorer ou en tout cas changer un peu les choses dans le collège tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'était par petites touches, hein, comme ça, un vent de fraîcheur, de nouveauté aussi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas facile, pas simple. On va parler de l'orientation en collège. L'éducation nationale se définit comme étant une institution aussi qui permet à partir de la sixième déjà de se projeter dans notre vie d'adulte. Est-ce que c'est tôt? Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est bon? Ça se passe très bien. On va discuter un peu de tout ça avec toi aujourd'hui.
Oui, là on est en pleine phase d'orientation. D'ailleurs les élèves de troisième doivent formuler des vœux provisoires d'orientation et à la fin du mois de mars, le conseil de classe apportera une réponse. Alors ce sera avis favorable, réservé ou défavorable, et dans ce cas-là, avec elle.
Quand on parle de vœux, ça peut être formulé comment? C'est de dire, bah, tiens, moi je veux aller en seconde générale, en seconde technique.
Oui. Alors au second trimestre, sur les vœux provisoires, c'est très simple. On demande simplement aux familles et aux élèves de se positionner sur trois vœux possibles. Premier vœu, une seconde générale et technologique. Deuxième vœu, une seconde professionnelle hein, pour faire un bac pro. Et troisième vœu possible, de faire un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle. J'en profite pour dire au passage que le redoublement n'est pas une orientation. Hein, on en a déjà parlé ici, mais le redoublement, ce n'est pas quelque chose qu'on propose en termes de projet d'orientation. Hein, les élèves, je l'avais déjà dit, on ne redouble plus le collège pour faire ça. Si on le redouble, c'est que parfois, effectivement, ça peut arriver. Je prends un exemple, hein, je pense à une élève du collège en particulier. Elle avait fait qu'un seul vœu, hein, elle voulait faire un bac pro sur les filières esthétiques. Donc, elle avait demandé au lycée Toulouse-Lautrec où il y a ce parcours-là. Hein. C'est un lycée qui est très demandé, notamment dans la filière esthétique. Et ses notes étaient insuffisantes. Donc, du coup, malheureusement pour elle, elle a préféré redoubler plutôt que faire...
Là, on parle souvent d'orientation à partir de la troisième et puis par la suite aussi un peu plus. Mais on peut se poser la question, comme c'est dit et annoncé d'ailleurs sur le site de l'Éducation nationale, pourquoi est-ce que ça ne vient pas plus tôt?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur l'orientation, l'essentiel du travail se fait en classe de troisième, mais les élèves qui le souhaitent, dès la fin de classe de quatrième, peuvent demander ce qu'on appelle une classe troisième prépa métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut monter un petit dossier. Il faut déjà avoir l'idée de vouloir faire un lycée professionnel. Et on candidate sur différentes structures. Alors en général, le profil de ces élèves-là, c'est, je l'ai dit, des élèves qui savent déjà ce qu'ils veulent faire dès la fin de classe de quatrième, c'est-à-dire une voie pro, un bac pro, et qui ont souvent un niveau un peu fragile. Donc, chaque année, par exemple, au collège de Cordes, on a 2-3 élèves qui montent un dossier et on a 1 ou 2 élèves qui sont pris. Pourquoi? Tout simplement parce que ces classes de 3e prépa métier, elles sont implantées dans les lycées professionnels et il n'y a pas beaucoup de place et il y a beaucoup de candidats. Donc, en fonction du profil du candidat, c'est une commission qui décide si l'élève est admis ou pas à faire sa 3e dans un lycée professionnel.
On se pose souvent la question de ces élèves qui sont plus ou moins en décrochage, qui sont plus ou moins intéressés par, on va dire, une pédagogique classique, standard. On leur dit souvent, prends ton mal en patience, à partir de la troisième, tu pourras choisir. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut conseiller à ces élèves qui n'aiment pas l'école de dire, allez jusqu'en troisième au minimum?
Non, je dirais pas ça, mais c'est vrai que le système aujourd'hui a assez fixé d'autres ambitions. Hein, tu sais, pendant très longtemps, que l'objectif, c'était que tout le monde sorte de l'école avec au moins un minimum de qualification, avec un diplôme, au moins un CAP. Après, on est passé à un objectif de porter toute une classe d'âge au niveau de 80% de classe d'âge au niveau baccalauréat, et on y est déjà. Mais aujourd'hui, on veut aller vers un autre objectif qui est 60% d'élèves d'une génération dans l'enseignement supérieur. Donc, soit un bac plus 2, un BTS, soit une licence, un bac plus 3. Donc, c'est vrai que le système pousse à faire des études plus longues. Donc, effectivement, cette orientation en classe de 4e, elle est réservée à certains profils d'élèves. Donc, hein, et ça, c'est pas mal parce que s'il y avait beaucoup plus de places en lycée pro dans la classe 3e prépa métier, ben on les remplirait en fait. Mmh. Parce qu'on trouverait toujours des élèves fragiles ou plus fragiles que les autres pour s'orienter ou pour être orienté par les professeurs en voie professionnelle. Donc il faut bien faire attention à ça. Et donc c'est vrai que l'institution, elle régule ça. Elle dit attention, hein. Attention, il ne faut pas non plus empêcher les élèves de faire des parcours, par exemple en seconde technologique. Par exemple, en seconde générale technologique, après la seconde, on peut faire une classe de première technologique. On y reviendra tout à l'heure. Donc, non, je crois que c'est pas mal d'offrir à quelques élèves de faire ce parcours-là. Et puis, pour les élèves qui cherchent vraiment autre chose, il y a la possibilité toujours, ici, on est sur un territoire rural, de faire ce qu'on appelle une maison familiale et rurale, qui propose aussi un autre parcours.
Ça, c'est quoi ça? Alors, je connais
en fait,
pas.
Ce sont des structures privées qui permettent de débuter un enseignement en classe de 3e, professionnalisant avec des stages. Alors, ça peut être des stages dans le milieu de l'agriculture, ça, autour de passions personnelles, des chevaux, par exemple. Hein. Ici, il y en a sur Gaillac, hein, des maisons familiales rurales. Donc, il y a aussi, cette possibilité-là. Mais c'est vrai que le système, il pousse vers la seconde.
Les choses ont un peu changé, hein, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais encore sur les bancs de l'école, collège ou lycée, tous ceux qui s'engageaient plus vers les voies technologiques professionnelles, c'était ceux qu'on disait qui n'étaient pas du tout faits pour le système général. Donc on leur disait, ah non, on va en truc technique, ça ira beaucoup mieux pour toi. Est-ce que, j'imagine que l'image que les établissements, on va dire, technologiques et professionnels aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il y a un vrai renouveau et une vraie appétence pour le lycée professionnel. D'abord, il faut savoir qu'on a un tiers des lycéens qui vont dans la voie professionnelle. Ah, si je prends, par exemple, j'ai dit lycéen, c'est collégien. Si je prends 100 collégiens, on va en avoir 60% vers la filière professionnelle, alors soit pour faire une seconde professionnelle, soit pour faire un CAP. Donc, on est à peu près sur cet étiage chaque année autour d'un tiers. Le lycée professionnel a beaucoup changé. Il a beaucoup changé dans le sens où, par exemple, tu vois, en classe de seconde, on propose aujourd'hui aux élèves de découvrir une famille de métiers. C'est plus je vais faire un bac pro, par exemple, à Rascol Carrosserie. Ça va être un bac pro où je vais découvrir la carrosserie, mais également la maintenance des véhicules automobiles. Également aussi, je pourrais découvrir la maintenance industrielle. Donc, on permet encore aux élèves, en classe de seconde, de se tester à différents domaines pour pouvoir, après, choisir à la fin de la classe de seconde. Donc, le lycée professionnel a beaucoup changé dans le sens où aujourd'hui, d'abord, il y a un bac pro. Ça n'a pas toujours existé, le bac pro. Hein. Le bac pro, c'est assez récent. Quand je dis assez récent, c'est 1985. Hein. On a créé le bac pro en 1985. Avant, quand les élèves allaient au lycée professionnel, ils faisaient ce qu'on appelle des filières courtes. Tu faisais un CAP, un certificat d'études professionnelles en 2 ans. Ou bien tu faisais un BEP, brevet d'études professionnelles en 3 ans, et puis après tu allais travailler. Concrètement, c'était une orientation qui était un peu une forme d'écrémage. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui continuaient leurs études, et puis ceux à qui on disait, bon, pour toi c'est filière bon, courte, et puis c'est le boulot après. Il n'y avait pas d'autres possibilités. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est-à-dire qu'en créant le bac pro en 1985, qui est un vrai bac, on a offert la possibilité aux élèves de bac pro qui le souhaitent de prolonger leurs études. Et si tu regardes aujourd'hui le parcours des élèves de bac pro, on a aujourd'hui 55% des élèves de bac pro qui poursuivent en BTS, en brevet de technicien supérieur. Donc, comme moi je l'explique aux parents, ça a changé. Ça a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on a 3 voies d'égale dignité. La voie générale, ça va concerner 50% des élèves à partir de la classe de seconde. La voie technologique, avec de beaux bacs technologiques, et la voie professionnelle. La voie technologique, c'est 20%, et la voie professionnelle, c'est 30%, je le disais tout à l'heure. Donc, en fait, il y a 3 escaliers, et avec ces 3 escaliers, tu peux monter au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau master. Oui. Donc, par exemple, tu peux faire un bac pro, après enchaîner sur un brevet de technicien supérieur, un BTS, après tu peux enchaîner sur une licence professionnelle, et après tu peux enseigner sur un master, un peu professionnalisant, hein, et donc tu peux monter jusqu'au niveau bac plus 5. Avant ce parcours-là, il n'était pas autorisé. Donc, concrètement, ce que nous, on dit, nous, les professionnels de l'école, aux élèves, en particulier aux élèves qui sont fragiles sur le plan scolaire et qui ont statistiquement peu de chances de réussir un bac général ou technologique, on leur dit, bon, tu es en difficulté, il vaut mieux que tu fasses un bac pro. Si Si tu fais ce bac pro, que ça marche bien, tu pourras poursuivre tes études si tu le souhaites, ou bien, bien sûr, hein, t'intégrer sur le marché du travail. Voilà.
Et sur quels critères vous vous basez pour avoir cette discussion avec l'élève? Est-ce que ce sont uniquement à partir de ses notes, ou bien de son caractère général, ou de ce que vous ressentez de lui?
Alors là, ça a changé, parce qu'effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'orientation ne soit pas une orientation subie. Hein, c'est-à-dire une orientation couperée, sélection, on prend les notes de l'élève, on les met dans la machine, toi tu vas en seconde générale technologique, toi tu vas en seconde pro, et puis en quelque sorte, les notes ont parlé. Aujourd'hui, quand tout à l'heure, j'étais en entretien, juste avant de venir à la radio ici, avec une mère d'élève, pour une élève qui a des fragilités et qui était un petit peu inquiète, et je lui dis, quand on construit le projet, non, le projet de l'élève aussi, c'est-à-dire on ne va pas orienter en voie professionnelle un élève qui ne veut pas y aller. Tu vois, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, quand on le fait, ça ne marche pas, c'est source de décrochage. Tu sais que la première source de décrochage au lycée professionnel, une orientation un peu dans l'urgence,
c'est ça.
Et puis finalement, ça ne marche pas. Donc en tout cas, en ce qui me concerne, et en tant que chef d'établissement, et je ne suis pas le seul à le penser, moi, il est hors de question que j'oriente en voie professionnelle des élèves qui ne veulent pas y aller. La seule limite que je poserais, c'est un élève qui est très, très, très fragile. Tu vois, il a moins de 8. Bon, je ne vais pas lui dire, allez, vas-y, mon gars, ou vas-y, ma grande, tu vas faire une seconde générale, ça va marcher, parce que ça ne marche pas. Hein, tout à l'heure, je relisais les statistiques pour préparer un petit peu l'émission. Et j'avais noté que des élèves qui ont moins de 8, ils ont 8% de chances de décrocher un bac général. Donc, tu vois, quand on dit non à un élève, ce n'est pas pour le plaisir de dire non. C'est qu'on essaye aussi de faire en sorte que si c'est pour aller faire une seconde générale qui va s'écrouler et au bout du compte, on va la réorienter, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc pour reprendre, quels sont les trois éléments qu'on va prendre en compte pour construire ce projet d'orientation avec l'élève et sa famille? Ça va être ses notes, bien entendu, ses résultats scolaires, mais aussi ses compétences. Et les compétences, ce n'est pas qu'une question de notes. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de cet élève que j'ai reçu avec sa maman. Ben, tu vois, cet élève, par exemple, elle a des compétences en français. Elle s'exprime bien à l'oral, elle s'exprime suffisamment bien à l'écrit, elle a eu une note au brevet blanc qui était tout à fait correcte. Bon, elle a d'autres fragilités en mathématiques, par exemple, mais comme je dis à la maman, elle a cette compétence en français. Et cette compétence en français, pour réussir dans la voie générale technologique, il la faut absolument. Donc, les notes, les compétences et le projet de l'élève. Et pour l'instant, ben, le projet de l'élève, il est un peu flou, hein, cet élève. Elle aime bien tout ce qui est la relation aux autres, elle envisage quelque chose autour de ça, mais elle ne sait pas exactement. Donc moi, quand j'ai regardé un petit peu sur ce profil-là, je lui ai dit, bon, on verra l'année prochaine, mais si vous arrivez un petit peu à remonter un petit peu vos résultats, peut-être que vous pourrez vous orienter en seconde technologique, à l'issue de la classe de seconde. Donc je pense que l'orientation couperée, c'est un peu fini, quoi. Ça, c'est un peu un mythe, hein. Par exemple, tu vois, en tant que chef d'établissement, bon, moi, ça m'est déjà arrivé de présider des commissions d'appel, mais nous, les chefs d'établissement, on envoie de moins en moins de gens en commission d'appel.
En commission, oui.
Alors, commission d'appel, je rappelle ce que c'est que comment ça fonctionne? L'élève formule des vœux définitifs au troisième trimestre, le conseil de classe répond. Ça passe, ça passe pas. Si ça passe pas, il y a déjà un entretien avec le chef d'établissement. Le chef d'établissement, il va reprendre tout le parcours de l'élève. Et si jamais le chef d'établissement dit non au vœu de l'élève, l'élève peut faire encore appel dans une commission d'appel. Alors, en commission d'appel, ça passe en général à peu près une fois sur deux. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est quand même d'accompagner le projet de l'élève et vraiment de passer d'une orientation subie à une orientation choisie.
Qui choisit, oui.
Ça, c'est pour éviter le décrochage. C'est vraiment fondamental.
Tu as parlé des familles un peu plus tôt. J'aimerais qu'on s'arrête une minute dessus un peu pour parler du rôle que peut effectivement jouer la famille. Parce que c'est soit extrême, c'est-à-dire la famille est beaucoup trop prégnante dessus. Oui. Papa, grand-père, tout le monde est médecin. Donc du coup, tu seras médecin même si tu es nul dans toutes les matières qu'il faudrait. Ou alors la famille complètement absente. Comment trouver le juste milieu et avoir ce discours-là envers les familles?
Alors c'est vrai que s'agissant des familles, on a... un sociologue a parlé de parents invisibles, c'est-à-dire des parents qui se déplacent très peu à l'école, qui n'ont pas une bonne connaissance du système éducatif parce qu'ils ont fait des parcours de formation souvent très courts. Ce ne sont pas des parents qui se désintéressent de l'école. Mais simplement, ce qu'ils n'aiment pas, c'est, tu vois, les grandes réunions où on s'adresse à tout le monde. Ils aiment bien qu'on fasse un peu du sur-mesure. Donc ça, je crois que maintenant, chez le chef d'établissement, tout le monde l'a bien compris. Tu as très peu de parents, quand tu les invites à parler de leur enfant, de l'orientation, qui se déplacent pas. Même les parents du milieu un peu populaire, qui ont cette distance à l'école, qui n'ont pas envie qu'on leur fasse la leçon. Donc ça, on arrive à le faire. Alors c'est vrai que s'agissant des parents, à la fois les parents, c'est une aide formidable pour l'élève parce qu'il va, il faut, c'est une construction familiale, un projet d'orientation. Mais c'est vrai qu'on peut avoir deux problèmes, soit des parents qui sont qui poussent le gamin et qui rêvent d'un gamin premier de la classe, qui va faire prépa, qui va faire médecine, et donc il faut qu'on fasse un travail avec les parents. Alors souvent au lycée, d'accompagnement, d'expliquer qu'on peut être heureux avec d'autres choix d'orientation et puis on peut faire des parcours longs aussi par d'autres filières, par exemple en passant par la filière professionnelle ou technologique. Et puis après, tu as des parents qui, et ça c'est une difficulté, et parfois qu'on rencontre un peu plus d'ailleurs en zone rurale qu'en zone urbaine, c'est le manque d'ambition. Tu vois, des parents qui se disent « Bon, ce qui va être important, c'est que tu trouves un lycée pas loin, une formation un peu professionnelle. » Et des parents qui, en raison de leur parcours, ne se projettent pas dans des parcours longs, pensant qu'eux-mêmes ne sont pas accompagnés, enfin, ne sont pas armés pour aider leurs enfants, ou que leurs enfants ne vont pas réussir. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'autocensure. Donc, c'est vrai que nous, on doit faire attention à ça. Et je ne veux pas dire qu'on regarde le pedigree social de tous nos élèves, mais il faut qu'on se penche un petit peu là-dessus. Quand on voit, quand les élèves demandent un parcours professionnel, qu'on se dise, attention, est-ce qu'on n'est pas dans un schéma qui peut être un petit manque d'ambition, etc. Mais parfois, on est surpris. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège d'Alban, je te livre cette anecdote, hein, un élève qui avait 17 de moyenne. Il me dit, Monsieur Robin, je veux faire un CAP de pâtisserie. Alors, je le reçois d'abord une première fois à lui. Je lui dis, écoutez, vous pouvez faire une seconde générale technologique. Et puis, si votre passion, c'est la pâtisserie, vous faites un bac général. Et puis après, avec ce bac, le CAP, vous pourrez l'avoir en un an. Et donc, comme ça, vous serez bien armé si un jour, vous devez devenir chef d'entreprise, diriger, etc. Ah, il m'a dit, mais moi, non, je veux faire de la pâtisserie. Alors, je me suis dit, bon, quand même, sensible à cette question du manque d'ambition. Donc, je reçois la maman. C'était plutôt un milieu un peu populaire. Hein, voilà. Et je dis ça sans reproche. Ouais, hein, ouais. Moi-même, je suis fils d'ouvrier. Donc, je ne jette pas quoi que ce soit. Et donc, je reçois la maman. Elle me dit, mais vous savez pas, M. Robin, mais il fait la pâtisserie tout le temps. C'est sa passion.
Sa passion. Ouais.
C'est sa passion. Ouais, ouais. Alors, moi, je lui ai quand même donné conseil. Je lui ai dit, écoute, c'est très bien. Tu veux faire ton CAP de pâtissier. Déjà, c'est super parce que tu vas trouver un patron très rapidement, parce que quand il va te voir arriver, t'exprimer, il va voir tout de suite tes compétences, il va te garder, il va t'embaucher, hein, ça c'est sûr. Je dis quand même, maintiens quand même un niveau de culture générale, continue de lire, de t'intéresser à plein de choses, parce que le jour où tu voudras évoluer, peut-être que ce diplôme professionnel, tu auras besoin d'un capital culturel plus important. Donc c'est vrai que En fait, franchement, ça a beaucoup changé les choses. Hein. L'orientation couperée, c'est un peu terminé. Alors, ça peut changer en fonction un petit peu des établissements, bien entendu. Mais le système, il est plutôt dans une forme de générosité, je dirais même de droit à l'erreur. Hein, tu vois, bon, c'est vrai que finalement, bon, voilà, si l'élève, il n'a aucun projet professionnel, s'il a même un niveau un peu fragile... Elle s'est passée en classe de seconde générale technologique, alors ça sera.
Et puis on ne sait jamais, sait jamais ce que la vie.
Ça sera pas sous les applaudissements.
Exactement. Ce qui a changé aussi, Jean-Marc, excuse-moi de te couper, mais déjà le temps passe vite. Hein, j'ai encore plein de questions à te poser.
Oui, il faut soit plus court.
Ouais, non. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui a changé aussi, ce sont les outils, dans le sens où tu nous as pris beaucoup d'exemples où tu rencontres des familles, des élèves avec qui tu discutes, mais aujourd'hui beaucoup de gens le font dans le secret de leur maison, avec Internet, il y a énormément de ressources en ligne. Est-ce que tu as quelques conseils à donner, au moins dans cette marée, on va dire, du web, des outils sur lesquels il faut pouvoir se reposer si on a envie de débroussailler le terrain tout seul déjà de son côté?
Alors, en fait, avant de te répondre, j'aimerais dire d'abord que les établissements sur ce qu'on appelle l'éducation-orientation font vraiment de plus en plus de choses. On a vraiment changé de monde. Moi, si je vois, par exemple, au collège de Corte-sur-Ciel, on va me dire, Monsieur Robin, vous faites votre pub. Mais on n'est pas les seuls à faire ça. Hein, je le dis tout de suite, hein, on n'a pas de spécificité. Donc, on a mis en place des entretiens d'orientation. Dans l'emploi du temps des élèves, ils ont une heure tous les 15 jours avec le professeur principal où ils peuvent découvrir les formations, préparer leur stage. Il y a le stage en entreprise, par exemple, lorsque moi, j'étais au collège, n'existait pas, qui permet parfois de valider un parcours. Il y a aussi des interventions des psychologues de l'éducation nationale avec des rendez-vous, les fameux conseillers d'orientation. Tu as aussi des visites d'entreprise. En classe de 4e, par exemple, à Corte-sur-Ciel, on va mettre en place, et c'est M. Hugues qui le fait, et c'est formidable, avec l'appui des parents, le forum des métiers. Il y a aussi, alors en termes de sites, si tu veux, il y a deux références. C'est pas la peine de parcourir partout, hein, je pense. Hein. Le premier site à consulter, c'est le site de l'UNICEF. Ah, parce que voilà, l'UNICEF, c'est un site d'éducation sociale.
C'est un site de référence.
C'est une vraie référence, il y a de plus en plus de vidéos. Tu as des conseils d'orientation qui peuvent te répondre par chat. Tu peux les interpeller, tu peux leur écrire. Il y a de plus en plus de ressources numériques. Et puis après, si tu veux découvrir les métiers, il faut aller sur le site du CIDJ, Centre d'information de la jeunesse. Hein, c'est un truc qui est plutôt parisien. Mais ils font de très belles fiches métiers, hein, si tu veux vraiment avoir... Donc moi, je conseille à mes élèves, c'est pas la peine d'aller dans plein de choses. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, compte tenu des enjeux de l'orientation, ce que nous on note, c'est que tu as un marché qui est en train de se créer, hein, le marché du coaching.
Bah oui,
voilà.
Bah
moi, je le sais, puisqu'il y a des parents qui me le disent. Tu allais voir un coach en orientation. Alors c'est vrai que je me dis, mais ça me désole, parce que d'abord, nous, on a un psychologue de l'orientation qui est qualifié, qui pourrait répondre. Nous-mêmes, nos professeurs principaux peuvent répondre. Mais je pense que les parents ont besoin aussi... Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas chez le médecin. Des fois, tu as besoin d'avoir un deuxième ou un troisième avis.
C'est ça, des avis.
Bon, donc, on va pas, je vais pas le reprocher. Je comprends la logique des parents. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce aujourd'hui de marché du coaching, de stress autour de l'orientation, alors que finalement, le système est très volontaire, pousse vers le haut. Hein, je te rappelle l'objectif de 60% vers l'enseignement
dans
supérieur.
L'enseignement supérieur, oui.
Donc bon, les outils aujourd'hui, ils existent et il faut faire attention sur Internet parce que tu as des sites qui peuvent être aussi des sites payants et qui n'apportent pas une qualité d'information qui n'est pas vérifiée. Donc moi, je dirais ne pas trop se disperser, aller sur les sites de l'UNICEF et puis après, tu as les journées portes ouvertes des établissements scolaires. Par exemple, nous, la semaine prochaine... Enfin, le 14 mars, on va emmener les élèves de 3e au Carrefour des formations, qui est organisé par les établissements scolaires. Donc, on fait pas mal de choses.
Alors, tu parles comme ça des journées portes ouvertes, et ça me fait rebondir sur une autre question. Est-ce qu'on peut aller dans le lycée que l'on veut, dans l'établissement scolaire que l'on veut par la suite, sachant qu'on parle de carte scolaire, de carte ceci? Est-ce qu'on a le droit d'aller là où on veut après?
Alors, en principe, non. Je vais devoir nuancer ma réponse. Tu vois, par exemple, ici, au collège de Cordes-sur-Ciel, les élèves doivent rejoindre leur lycée de secteur, qui est le lycée Rascol, Louis Rascol.
Obligatoirement ou c'est ce qui est...
Alors, ça, c'est valable pour les élèves qui veulent faire une seconde générale technologique. Pour la voie professionnelle, le principe, c'est que tu choisis ton lycée professionnel en fonction de la
l'offre formation.
De formation. Donc là, tu vas dans le lycée, tu candidates pour le lycée de ton choix... Une priorité pour les élèves du Tarn, pour les formations qui sont offertes dans le département du Tarn, mais tu peux candidater aussi dans d'autres départements, dans d'autres académies. Donc là, tu choisis vraiment le lycée de ton choix. Pour les élèves qui ne souhaitent pas rejoindre le lycée de secteur, ils peuvent faire une demande de dérogation. Alors, cette demande de dérogation, tu as un petit formulaire à remplir, il y a des priorités. Je vais voir un petit peu là.
Je t'en prie.
Oui, tu as des priorités sur cette demande de dérogation. Par exemple, la priorité, ça va être les élèves qui ont un handicap, une maladie particulière, ou bien qui sont boursiers. Ces élèves-là, s'ils choisissent un autre lycée, s'ils font une demande de dérogation, ils seront prioritaires par rapport aux autres. Alors pourquoi ? Notamment pour les boursiers, ce qu'on veut faire, c'est aussi donner un peu plus de chance aux élèves des milieux populaires, et puis participer aussi à la mixité des établissements scolaires. Sinon, tous les élèves peuvent faire une demande de dérogation.
Est-ce que la zone géographique compte ?
Oui, alors la zone géographique, elle va compter dans le sens où tu seras prioritaire sur les établissements scolaires qui sont proches de chez toi.
De chez toi, oui, voilà. Parce que je prends l'exemple pour toi dans ton établissement, tu as des enfants peut-être qui viennent de Vahour ou de Penne, par exemple. Lorsqu'ils vont au lycée, ils peuvent choisir d'aller au lycée dans le Tarn-et-Garonne. Et pas forcément au lycée Louis Rascol d'Albier. Donc là, dans ce cas-là, ils font une demande de dérogation par rapport à leur adresse, leur domicile. Ouais, ok.
En fait, tu peux très bien, quand tu habites à Vahour, faire une demande pour le lycée de Montauban, hein, une demande de dérogation, mais tu ne seras pas prioritaire par rapport aux élèves du département.
Ouais.
Et ce sera étudié quand même.
Ouais.
Et après, tu as un dispositif aussi qui s'appelle les internats d'excellence, hein, pour les lycées, qui est en train de se mettre en place avec une procédure un petit peu particulière. Mais si tu veux, on en reparlera sur la question de l'internat sur une autre émission. Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'on a changé de culture, en fait. Hein. C'est-à-dire l'orientation couperée, l'orientation subie. On essaye vraiment de faire de plus en plus une orientation choisie en travaillant avec les élèves, avec les parents. Alors, tu sais que c'est une question qui est en débat, ça. Je lisais une tribune de deux anciens directeurs de CIO, de Centre d'information et d'orientation, qui disaient qu'on devrait laisser le dernier mot aux parents en classe de troisième et reporter l'orientation à la fin de la classe de seconde. De façon à ce que, quand les élèves s'orientent en voie professionnelle, ce ne soit pas une notion subie. Mais je dirais, c'est déjà un peu ce qui se passe. Je crois que nos collègues, en fait, sont partis à la retraite. Ils n'ont peut-être pas trop suivi le mouvement. C'est déjà un peu ce qui se passe, en fait. Hein. Après, l'idée, elle n'est pas mauvaise en soi. Il y avait déjà eu une expérimentation qu'on appelle le dernier mot aux parents sur l'orientation. Qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que ça ne changeait pas grand-chose en termes d'orientation, en vérité.
Les parents écoutent quand même les enfants, un peu, alors, en grande majorité.
Alors justement, c'est ça qui a été intéressant. C'est-à-dire que quand on a mis en place le dernier mot aux parents dans certaines académies, en fait, on s'est aperçu que l'établissement et la famille se rapprochaient. Parce que la famille avait vraiment besoin de conseils. Et c'était un facteur de rapprochement entre les équipes pédagogiques et les parents. Donc finalement, pourquoi pas ? Mais moi, je dirais, allez, 95%... Enfin, moi, je vois l'année dernière, on s'est opposé à deux projets, tu vois, sur 66 élèves, deux projets pour un élève qui avait des résultats très, très, très faibles, mais qui n'avait pas de projet d'orientation très défini. Il a obtenu satisfaction en commission d'appel. Et puis après, une élève qui avait des résultats, mais vraiment, vraiment très, très faibles. Et la commission d'appel a dit non avec ses résultats. Vous ne pouvez même pas faire une seconde GT, donc elle redouble dans un autre établissement. Donc, tu vois, donc le système aujourd'hui, c'est vraiment... c'est vraiment quand même de pousser. C'est ça que je veux faire comprendre, hein, c'est qu'on n'est vraiment pas dans la censure. On n'est vraiment pas dans la censure en termes de projet.
Nous sommes à la fin de l'émission, Jean-Marc. Je vais te poser ce qui aurait pu être la première question. Mais j'ai d'abord voulu qu'on ait tous ces échanges avec pas mal d'arguments. S'il fallait évaluer, analyser le système d'orientation de l'éducation nationale en quelques mots, est-ce que tu dirais que ça fonctionne plutôt bien ? Peut mieux faire ou à revoir?
Alors moi, je vais te dire peut mieux faire. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un rapport de l'inspection générale de 2020 qui dit peut mieux faire. En matière d'orientation, on peut progresser, notamment dans l'accompagnement des élèves et des familles, notamment pour bien présenter les filières de formation. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment important de faire ce travail régulièrement. Par exemple, j'ai appris un truc assez hallucinant. J'ai relu deux fois la note là, de la division de l'évaluation de la prospective de la performance qui disait que dès la classe de 6e, la moitié des parents savaient déjà ce que l'enfant ferait. Tu vois, ils avaient déjà un projet d'orientation pour leur enfant. On se dit, bon,
c'est beaucoup peut-être trop prématuré.
C'est peut-être
là,
un peu tôt.
C'est beaucoup trop prématuré.
Mais c'est vrai qu'en même temps, le parcours qu'on appelle le parcours avenir éducation orientation, il faut vraiment que nous, les établissements scolaires, on le commence dès la 5e. Et ce que je note, mais ce n'est pas moi qui le note, c'est l'inspection générale qui le note, c'est que souvent, on va par exemple dire au lycée, les élèves bénéficient de 54 heures d'orientation, hein, d'éducation orientation, mais dans les emplois du temps, si tu veux, il n'y a pas de place ou il n'y a pas de moyens pour financer les professeurs principaux qui prennent en charge ça. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, si on affiche des ambitions, il faut qu'on s'en donne les moyens. Donc moi je dirais, École de la République en matière d'orientation peut mieux faire, mais en tout cas on a beaucoup progressé par rapport à il y a quelques années. Et moi je le vois en tant que chef d'établissement, cette question-là vraiment elle nous mobilise et il y a de belles choses qui sont faites. Par exemple, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on en parlera dans une autre émission, dans le cadre de Parcoursup, par exemple, les élèves de terminale sont accompagnés par deux professeurs principaux. Tu vois, on a mis en place dans les collèges...
C'est sûr que pour Parcoursup, il faut au moins ça. Hein,
ouais. Il faut au moins ça. Ça, c'est vrai, c'est tellement compliqué. Mais les professeurs principaux, par exemple, on les forme de mieux en mieux. Il y a un travail d'équipe qui est vraiment fait, donc... on a fait des progrès, mais moi je dirais oui.
Peut mieux faire donc.
Oui, 12 sur 20.
Allez, 12 sur 20.
12 sur 20.
Ce sera la note finale de cette émission consacrée à l'orientation en collège. Hein, je précise, hein, parce que au lycée, les choses sont un poil différentes. On le verra prochainement hein, dans une émission. Nous sommes déjà en contact hein, avec notamment le proviseur adjoint du lycée Louis Rascol d'Albi qui viendra ici un beau jour hein, pour nous parler de l'orientation en collège.
Ah oui, on l'attend, Jean-Joseph, s'il nous écoute.
Ah oui, on aura le plaisir de l'accueillir.
Jean-Joseph, on t'attend.
Sur CFM Radio. Pour l'heure, on va rendre l'antenne antenne. Jean-Marc Robin, je te remercie d'être venu dans le
merci
studio
Jack.
De CFM. C'était Carnet de correspondance. Si vous aussi, vous souhaitez nous orienter vers un sujet qui vous intéresse sur toutes les questions d'ordre éducatif, pédagogique, eh bien, n'hésitez pas à un petit mail à CFM Radio à Corde-sur-Ciel, c'est rédaction.corde@cfmradio.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.